Radio Murmure.
Le bruit de fond des campagnes.
Radio Murmure.
On monte le son.
Quand on les a vus arriver, on n'a pas cru qu'ils passeraient l'hiver.
J'ai mis 5 ans pour trouver une terre. Au début, on m'a prêté un terrain.
C'est vrai que monter un projet comme ça, c'était osé, mais ça a marché.
Ça nous a un peu bousculé au début, quand ils sont arrivés. Mais c'est pas si mal qu'ils soient là.
On est 8 à habiter sur ce lieu et on a acheté ça ensemble.
C'est comme ça que tout a commencé.
Sébastien et Virginie sont tous les deux originaires des Alpes. Il y a quelques années, ils ont trouvé du travail chez Michelin à Clermont-Ferrand. Elle était chargée de la mesure des polluants, lui a été embauché comme électricien industriel. Deux salaires, une maison, bref, une vie apparemment bien remplie. Jusqu'au jour où le confort matériel ne suffit plus, Sébastien et Virginie se posent des questions sur le sens de leur mode de vie et de leur travail. Une profonde remise en question secoue le couple, qui décide alors de changer de cap. Ils démissionnent tous les deux de leur poste, avec de nouveaux projets en tête. Virginie souhaite devenir arboricultrice et Sébastien se recycle dans la plantation de haies et le bois raméal fragmenté BRF. Nous les avons rencontrés sur la commune de Tortebesse, dans le Puy-de-Dôme.
Moi je m'appelle Sébastien, je suis entrepreneur depuis 5 ans. Le but premier de mon entreprise, c'était le broyage de branches, donc la valorisation de tout ce qu'on peut tailler dans une haie agricole. À cette activité de base, se sont greffées d'autres activités depuis, que sont l'élagage et en fait la plantation de haies aussi, parce que c'est bien de les couper, mais c'est bien d'en planter. Et donc aujourd'hui, on est là pour appuyer l'exploitant agricole dans la plantation d'une haie. Donc avec Virginie, ma compagne.
Juste quand vous avez bossé tous les deux en arrivant, vous étiez sur Clermont ?
On logeait dans un petit studio à côté d'un rond-point. Et étant originaires tous les deux de la campagne, on a assez rapidement pris la décision qu'on ne pouvait pas vivre comme ça. Moi qui à l'époque n'avais pas encore retrouvé de travail, je me suis mis à la recherche d'un endroit où habiter. Et c'est là qu'on a connu les Combrailles. Et on a acheté une vieille maison en pierre qu'on a retapée. Et c'est un petit peu aussi la maison qui nous a fait basculer. Parce qu'on voulait essayer de faire quelque chose de sympa, donc on a commencé à s'intéresser aux techniques de rénovation qui respectent les matériaux traditionnels et ainsi de suite. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, on pouvait faire plus simple, plus respectueux, plus sain. Et je crois que quelque part, ça a un peu été le déclencheur après pour se dire il faut qu'on essaie de faire autre chose de notre vie. Et quitter un petit peu le monde industriel, parce que moi c'est pareil, je suis passé aussi chez Michelin pendant 3 ans. C'était très sympathique, j'ai travaillé avec des gens qui étaient vraiment très sympas, mais après c'est dans la globalité, je me voyais pas faire ma carrière chez Michelin.
Bah, c'est l'industrie, hein.
C'est la grosse, très grosse industrie. Ouais.
Comment on passe de, comment tu m'as dit, électricien industriel,
oui.
Donc voilà, à
planteur de haies,
ouais, voilà.
Broyeur de branches. C'est un petit peu particulier. C'est justement dans le cadre de la rénovation de la maison, c'est posé une grosse question. C'était le mode de chauffage. Parce qu'on habite donc dans les Combrailles à 700 mètres d'altitude, les hivers sont quand même froids. Et puis je suis fils de plombier chauffagiste, donc j'étais déjà un petit peu là-dedans. Et à l'époque, on commençait à parler un petit peu en France du granulé de bois. Donc c'est de la sciure qu'on récupère dans les scieries, qu'on compacte pour faire des petits granulés là. Et je me suis dit, personne ne le faisait sur le Puy-de-Dôme, personne n'en fabriquait. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc j'ai commencé à gratter un petit peu, trouver des fournisseurs, des fabricants de machines. J'ai contacté les collectivités locales pour essayer de trouver un appui que j'ai pas trouvé. parce qu'à côté de ça, un gros industriel était en train de monter un projet similaire. Et les collectivités ont très fortement appuyé ce gros industriel, aujourd'hui coté en bourse, au détriment de petits projets. Voilà. Et donc du coup, je leur dis, écoutez, puisque mon projet ne trouve pas d'écho favorable, c'est pas grave, moi je vais faire autre chose. Je pars du principe qu'il faut essayer de s'adapter un petit peu aussi dans la vie, tant que faire se peut. Donc je me suis dit, puisque le granulé ça marche pas, il y avait un autre mode de chauffage un peu sur le même principe, c'était la plaquette de chauffage. Donc là c'est un procédé qui n'est pas du tout industriel, hein. On prend les branches, on les passe dans un broyeur et de l'autre côté ressortent des gros copeaux qu'on fait sécher, qu'on passe dans une chaudière et ça permet de se chauffer, donc c'est beaucoup plus simple, les investissements sont beaucoup moins lourds. Donc j'ai dit, allez banco, je pars là-dessus. Le problème qui m'est très rapidement apparu, c'est que personne n'avait de chaudière pour se chauffer avec ça, ou c'était très confidentiel et les gens avaient déjà des réseaux de distribution, enfin des réseaux pour se fournir en plaquette. Donc j'ai creusé un petit peu et j'ai trouvé une autre utilisation de la plaquette, surtout quand on fait ça avec de la branche d'arbre feuillu, du noisetier, des choses qu'on trouve dans une haie d'écombraille. C'est ce qu'on appelle le BRF, le bois raméal fragmenté. C'est une technique qui permet de ramener du bois au niveau du sol pour créer de l'humus et redynamiser un petit peu le sol sans utiliser d'engrais chimiques issus de la pétrochimie. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. Je passe mon temps à broyer des branches et à vendre du copeau aux gens qui mettent ça dans leur jardin, dans leur massif de fleurs.
Et au niveau du financement, t'as fait comment ?
Alors au niveau du financement, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Je suis allé voir une banque, j'ai fait un dossier, donc tout allait bien sur le papier. La personne que j'avais en face de moi, la conseillère, m'a dit « il n'y a pas de souci, vu le montant que vous empruntez à l'époque, j'empruntais 40 000 euros pour acheter tout mon matériel. Il n'y a pas de souci, ça va passer. » Et puis quand mon dossier est monté au responsable d'agence régionale, le bonhomme a mis son veto, pensant que j'allais être en concurrence avec un autre projet, alors qu'avec le temps on s'est rendu compte que non, on aurait été complémentaires, j'aurais pu devenir fournisseur de cet autre projet. Donc le gars a mis son veto et du jour au lendemain, cette banque m'a dit non, les 40 000 euros ne comptaient pas dessus. Donc moi j'avais déjà envoyé des chèques d'acompte pour le matériel. Donc du jour au lendemain, on se retrouve avec rien du tout. Donc je me suis retourné vers la banque numéro 1 de quand on est jeune, c'est papa-maman. Voilà, donc j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui avaient un petit peu d'épargne et qui ont pu me débloquer une partie, je dirais, pour acheter mes machines. Et vers une autre banque qui du coup m'a fait un petit prêt complémentaire pour acheter ce qui manquait. Donc là ça a été déjà le premier coup, la première déception, et 5 ans après je vais relancer des investissements, je me heurte au même problème. Les banques ne font pas leur boulot, de toute façon c'est clair. On ne demande pas pourtant des sommes qui sont colossales. Maintenant j'ai 5 ans d'activité, j'ai presque passé le plus difficile. C'est pas pour autant qu'ils prêtent. En fait, ils regardent uniquement les chiffres. Vous avez beau être motivé, être sur un secteur porteur, si les chiffres ne leur conviennent pas, ils ne prêtent pas. Mmh. Voilà, c'est un peu le problème.
Et du coup, vous arrivez quand même à vivre de l'activité, comment ?
Alors, l'activité, pour la deuxième année consécutive, devient bénéficiaire, parce que j'ai passé quand même 3 ans à injecter de l'argent dans l'entreprise, parce que je ne travaillais pas assez, donc il fallait quand même payer les charges, payer les emprunts. Donc là, c'est la deuxième année où je vais gagner des sous. Pour l'instant, je ne peux pas dire que j'en vis. Mmh. Parce que l'an dernier, j'ai gagné sur l'année 3000 euros. Mmh. Cette année, je vais gagner 2 fois plus. Donc ça fait un demi-SMIG. Mmh. C'est pas énorme. Donc ça va qu'on a d'autres revenus à côté, mais ça ne sera pas éternel. Et il faut faire attention au budget. Et du coup, la fameuse maison qu'on avait achetée en arrivant sur la région, on l'a mise en vente. Mmh. Parce que je dirais que dans le projet global, avec le projet de Virginie, la maison n'est plus adaptée parce qu'on n'a pas assez de terrain autour pour planter nos vergers. Donc on vend la maison et puis on va essayer de s'implanter ailleurs pour faire quelque chose de plus global, quoi.
Non, puis avec ta création d'entreprise et puis moi mon projet, on a changé aussi d'optique, de mode de vie. Mm-hmm. La maison ne correspond plus à notre mode de vie, elle est trop grande. En fait, ça a changé notre vie, donc maintenant... On adapte le matériel à la vie.
La prochaine maison, du coup, ben, on a toujours un peu plus creusé la piste de l'habitat, l'habitat qui soit le plus adapté à ce qu'on voulait faire et qui coûte le moins cher et qui soit économique à l'usage et ainsi de suite. Donc du coup, la prochaine habitation, ça sera peut-être une maison en bottes de paille ou une maison de hobbit enfoncée sous terre. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et qu'on se fera nous, vraisemblablement, parce qu'on aime bien faire ça. Et puis au moins, on fait les choses vraiment comme on en a envie. Et puis de toute façon, moi j'ai comme objectif ultime, je le sais aujourd'hui et je le ferai, j'y arriverai, c'est devenir agriculteur. Je finirai ma vie agriculteur, mais comme l'ont été nos grands-parents. C'est-à-dire un petit jardin, un petit élevage, quelques bêtes, voilà, des fruits. Et puis déjà travailler pour produire ce qu'on mange, voilà, et puis après éventuellement vendre le surplus et non pas faire l'inverse. Quoi.
Et du coup, ça par rapport à ton activité actuelle, comment t'imagines la transition? Quand tu nous dis ça, c'est quand tu seras à la retraite ou c'est
ça sera avant, déjà. Ça sera avant, parce qu'aujourd'hui j'ai 36 ans, je pense que le boulot que je fais est quand même physique. Si j'ai pas les machines pour un petit peu m'aider, je vais m'user trop rapidement, donc ça sera pas possible. Je pense faire ça, je dirais encore une dizaine d'années. Puis ça fait 5 ans que je fais ça et j'ai jamais fait 2 ans de suite strictement la même chose. J'ai rajouté des petites activités, j'ai connu des gens, j'ai fait d'autres choses. Donc je me dis si les 10 ans à venir sont encore riche d'expériences nouvelles et de nouveaux contacts, je ferai peut-être 15 ans, j'en ferai peut-être 20, mais à terme, je m'orienterai un petit peu plus vers l'agriculture et voilà.
C'est en ça que du coup votre projet à deux, de couple, on n'a pas dit.
Oui.
se conforte et se.
Ah ouais, c'est un vrai projet de vie, un vrai projet de couple à long terme et. Et c'est pour ça qu'il parle en fait de devenir agriculteur. En fait, c'est simplement de se recentrer sur sa vie et sur nos propres besoins, quoi, sur notre vie. Et... Parce qu'on aime bien travailler ensemble aussi, donc ça serait pas gênant qu'on ait une exploitation à tous les deux qui nous fasse quand même un certain chiffre, un certain revenu pour payer les charges auxquelles on n'échappe pas, les taxes et compagnie, ou les choses qu'on peut pas produire.
Vous avez une idée de combien il vous faut pour vivre aujourd'hui pour, voilà,
il nous faut un SMIC.
D'accord. Pour la famille.
Pour la famille.
Ouais, oui. Sachant qu'on a donc une petite fille qui a 4 ans et elle aura un petit frère ou une petite sœur là, d'ici l'été. Donc on sera bientôt 4, une famille, on va dire, typique française, voilà, même si c'est. Je sais pas si c'est vraiment typique, mais bon. Dans l'état actuel des choses, avec les emprunts de la maison et ainsi de suite, un SMIC ne nous suffira absolument pas. Donc c'est aussi pour ça qu'on vend la maison. C'est vraiment pour. Voilà, pour être capable de vivre normalement avec un minimum de moyens. Bon alors après on a été deux jeunes, je dirais tout à fait traditionnels. On est passé comme tout le monde. Moi j'ai eu étant jeune des voitures de sport et voilà, et ça me faisait rêver. On a eu de la hi-fi, on a eu de l'informatique, et aujourd'hui en fait on fait passer un petit peu ces choses au second plan.
On s'est acheté une grande maison.
On aurait pu faire pire, hein, construire très grand et enfin voilà et très moderne. Dans un lotissement, oui. Et après, du coup, ben voilà, une fois qu'on a éliminé un petit peu tous ces trucs, ben on se rend compte qu'on économise quand même pas mal d'argent. Et du coup, on a du temps pour nous. On a du temps pour notre petite qui nous en demande quand même pas mal. Et je dirais que ça compense amplement le fait d'avoir une télé grand écran dans le salon, quoi.
Et puis le fait d'être agriculteur, c'est avoir la terre, donc pouvoir produire son alimentation, une grosse partie, quoi.
Oui.
Que ce soit en légumes, en fruits, au moins à la base, quoi, les légumes, les fruits, un peu quelques volailles, pourquoi pas, ou de cochons, on a déjà deux brebis, enfin voilà, ça complète bien l'alimentation, quoi. Et une fois qu'on a l'alimentaire, finalement, on se dit, on a l'alimentaire, on a l'amour.
Il manque l'eau fraîche.
Il nous faut guère de choses de plus, quoi.
Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de vie ? finalement vous avez changé de vie, plus d'écran plat.
Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était complètement futile, c'était un cercle vicieux, c'était.
Je pense que le déclencheur ça a été notre voyage au Québec.
Ah oui, ça l'idée.
On est parti 3 semaines en fait se perdre dans la nature au Québec, donc dans une période complètement creuse au niveau touristique. C'était limite à la fonte des neiges quoi. Il y avait que les parcs d'ouvert quoi. Mmh. Enfin, et nous ça nous convenait tout à fait. Et en fait on s'est retrouvé dans la forêt pendant 3 semaines. C'était génial, quoi. On s'est ressourcé et on est revenu de là. C'est 3 mois après, t'as démissionné, quoi.
C'est ça.
Je pense que ça a été le déclencheur. On attendait ça quelque part, mais on ne le savait pas. Et là, ça a été le déclencheur, le retour à la nature, le besoin de retourner à la nature, quoi. Loin de l'industrie et de la ville.
Et puis, ce qui nous a encore conforté dans notre démarche, c'est qu'il y a 2 ans, on est parti 1 mois en Roumanie avec des amis. Dont l'épouse est d'origine roumaine, et ils sont allés se construire une petite maison dans un petit village roumain traditionnel. Et en fait, on a retrouvé nos campagnes françaises d'il y a 50 ans.
Et,
Qu'on suppose, oui. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas mécanisés. Le plus gros agriculteur qu'on ait vu, il a 2 vaches, allez, 3 peut-être. Et en fait, c'est des gens, ils ont le sourire du matin au soir. Et là, on s'est dit, mais il y a quelque chose en fait. Et c'est qui. Ils ont aucun, entre guillemets, aucun problème d'argent parce qu'ils n'ont pas de télé, parce qu'ils n'ont pas d'emprunt pour la voiture, pas d'emprunt pour les maisons. C'est sûr qu'ils vivent chichement, mais quelque part, pourquoi pas. Voilà. Et finalement, on s'identifie bien à ça. On s'identifie bien à ça.
Et votre entourage, vos amis, votre famille.
Alors, comment dire. Alors, les amis, du coup, ben, on va dire qu'on les a, étant donné qu'on a quitté notre région d'origine, on les a un petit peu resélectionnés ici. C'est-à-dire ben, qu'on a lié amitié avec des gens qui ont un petit peu le même esprit que nous, des agriculteurs, des jeunes qui s'installent en maraîchage, qui galèrent un peu aussi. Voilà. Donc au niveau des amis, on va dire, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il y a toujours dans l'eau certains qui... On a des amis qui maintenant approchent de l'âge de la retraite, qui se posent un peu des questions pour nous, mais vu qu'ils ont eu aussi des parcours atypiques, quelque part, voilà, ils ne sont pas trop inquiets. Au niveau de la famille, là, c'est beaucoup plus compliqué.
Non, enfin, ça dépend. Moi, j'ai toujours eu une image d'écolo parce que j'ai fait de la chimie, mais de l'environnement. Du coup, j'avais cette étiquette. Au niveau de ses parents, moi, j'étais l'écolo, quoi. Je l'ai convertie en plus, donc
c'était pas... Elle m'a éloignée de mes parents, voilà, donc forcément, là, c'était une question.
Je l'ai arrachée de ses racines, je l'ai emmenée avec moi, je l'ai convertie à l'écologie. Et donc, on a cette étiquette, ouais, mais en fait, on assume bien. En plus, le fait d'être loin de la famille, finalement, on vit comme on a envie de le vivre, sans avoir leurs remarques tous les jours. Bon, on les a quand on les voit, mais ça, après, c'est plus facile à assumer aussi, quoi.
Le frère donc, de l'agriculteur où on est ici, qui est président de l'association des croqueurs de pommes, nous faisait une réflexion lors d'une journée la semaine dernière. Il disait, on entend très souvent les gens dire « c'est mon grand-père qui a planté les arbres ». Et en fait, on en est arrivé à la conclusion que la génération de nos parents, moi, mes parents sont nés dans les années entre 40 et 50, c'est des gens qui ont complètement lâché ce contact-là. Parce que je pense qu'on leur a proposé un idéal. Alors, je pense qu'ils en ont bavé étant jeunes. Je sais que chez ma mère, ils étaient 15 ou 16 à table tous les jours. Ils ont eu accès au confort moderne d'une salle de bain dans les années 80, quand mon père est entré dans la famille parce qu'il était plombier. Et quelque part, il leur a amené ce confort-là. Je pense qu'ils ont rêvé. On les a poussés aussi un petit peu à rêver, parce que derrière, il ne faut pas rêver, il y a des industriels qui...
C'était la révolution industrielle, les 30 Glorieuses, ils ont grandi avec les 30 Glorieuses, voilà. Donc ils ont été complètement immergés dans cette société de consommation, ils ont complètement quitté la terre, quoi.
À la fois, c'est quand même grâce à eux que tu as du boulot aujourd'hui, c'est eux qui ont arraché les haies, non?
Alors, oui.
Enfin, oui, les parents, oui.
Oui, c'est oui, oui, les parents ont arraché les haies, mais j'aurais quand même du boulot, même s'ils ne les avaient pas arrachés, parce qu'il y aurait de l'entretien à faire. Et il y a sur les haies existantes, tous les ans, les agriculteurs passent pour entretenir leurs haies. Alors, beaucoup n'ont pas d'autre solution, quelque part, bon, je peux arriver à les comprendre. Ils font un tas de branches, ils y mettent le feu, et voilà. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres biais de valorisation, mais bon, faut faire changer les mentalités et ça prend du temps, c'est comme pour tout.
Radio Murmure, une émission réalisée par Audrey Barat pour Radio Sainte-Afrique, à l'initiative du réseau des CREFAD, financée par la Datar Massif Central et les régions Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes et Bourgogne.